Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Jean-Yves Elmer, qui est ancien élève de l'École Polytechnique et de l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris. Il est également docteur en sciences économiques. Après un parcours dans l'industrie, puisqu'il a été numéro 2 de PSA, il a été nommé en 1996 délégué général pour l'armement. Qu'est-ce que la délégation générale pour l'armement? Je vous dis brièvement, sans doute que M. Elmer vous en dira davantage. La délégation générale pour l'armement est au sein du ministère de la Défense en charge de la politique d'armement du pays. Elle veille à la cohérence d'ensemble des systèmes de force et assure la conduite des programmes d'armement et l'acquisition des équipements de défense. Elle emploie 20 000 personnes et gère un budget annuel d'environ 70 milliards de francs. Monsieur Jean-Yves Elmer, je vous laisse la parole.
Bien, merci madame. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de passer ce moment avec vous ce soir. Et je remercie l'Université de tous les savoirs d'organiser cette conférence sur l'emploi des technologies à des fins de défense, et de me donner l'occasion de m'exprimer devant un auditoire aussi large que celui de ce soir. Parce que ces questions de défense, et plus encore les questions de technologie de défense, peuvent apparaître réservées à un cercle très restreint d'individus, d'experts, mais c'est en fait un sujet qui nous concerne tous, puisque c'est le sujet de la sécurité de notre pays, la sécurité de notre sécurité, celle de nos enfants qui se trouvent en jeu. Et je suis très heureux que l'Université Tous les Savoirs ait décidé d'aborder dans ce tel forum public ce sujet-là dans les 366 conférences qui vont avoir lieu. Alors, j'ai eu une interrogation en écoutant votre introduction, c'est le fait que nous soyons dans la catégorie artifice. Alors, bien sûr, on peut penser aux effets, aux explosions qui sont liées à l'utilisation des armes, on peut penser aux leurres qu'on utilise parfois, que les militaires utilisent parfois, on peut penser aussi à l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente dans nos systèmes. Donc finalement, je me suis dit que c'était un choix judicieux que de parler de défense dans la rubrique artifice. Néanmoins, le thème de la conférence, c'est demain, quelle technologie pour quelle défense? Et tout d'abord, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que la défense a besoin de technologie ou est-ce qu'elle a encore besoin de technologie? Et c'est vrai que depuis toujours, la supériorité technologique a été un élément déterminant de la victoire militaire. Il y a bien sûr les qualités de stratège des chefs militaires, il y a la vaillance des soldats, mais la supériorité technologique, c'est ce que nous montre l'histoire des conflits armés, a été un élément important de cette supériorité militaire. On peut remonter au feu grégeois qui a fait la puissance de Byzance. Le feu grégeois, c'était des poids enflammés qui étaient lancés sur les navires ennemis. On peut penser à l'arbalète du Moyen-Âge, à la mitrailleuse qui a facilité les conquêtes coloniales de la Grande-Bretagne. On peut penser aux technologies sous-marines pendant la Seconde Guerre mondiale ou aux technologies radar qui ont été développées à cette occasion-là. On peut penser aux missiles de la seconde moitié du XXe siècle. Et on peut penser bien sûr aussi à l'arme nucléaire qui a permis aux Américains d'obtenir la reddition du Japon, immédiate du Japon en 1945, et qui, sur laquelle s'est ensuite fondée la stratégie de dissuasion des grandes puissances qui a assuré plus de 50 ans de conflits, 50 ans sans conflits armés sur notre territoire et en Europe. Alors ce constat a amené les militaires à soutenir la recherche et à exploiter les progrès technologiques. Et on peut même dire que la recherche à des fins de défense a longtemps tiré le progrès scientifique et technique général et qu'elle a accéléré le développement de pans entiers de technologies dans les domaines de l'aéronautique, du spatial, de l'informatique, de l'électronique, domaine des télécommunications. Il faut rappeler que les circuits intégrés sont nés en 1959 à l'instigation du département de la défense américain, que les grands ordinateurs sont nés des besoins en calcul pour le déchiffrement, que les turboréacteurs, les radars, les systèmes de localisation par satellite comme le GPS sont d'origine militaire, que les lanceurs spatiaux sont issus des technologies développées pour les missiles, et que même Internet est né du réseau ARPANET militaire qui a été mis en place à la fin des années 60. Et cette logique de pousser le progrès technologique s'est aussi transformée en une sorte de surenchère, dans la course aux armements, avec pour point culminant l'initiative de défense stratégique, la guerre des étoiles qui a été lancée par Ronald Reagan et qui a été un des facteurs qui a provoqué la chute de l'URSS, qui n'a pas pu suivre financièrement et technologiquement le rythme qui était imposé par les Américains. Alors aujourd'hui, le contexte a beaucoup évolué. Les adversaires, les risques, les menaces sont plus de même nature. Et puis ce n'est plus la recherche militaire qui aujourd'hui tire le progrès technologique, mais bien la recherche civile. Cependant, malgré cela, aujourd'hui comme hier, et je vais me forcer de vous le démontrer, science et défense, technologie et défense restent des concepts qui sont indissolublement liés. Et le système de défense d'une nation comme la nôtre ne se conçoit pas sans la capacité d'apprécier les risques et les opportunités qui sont engendrées par les évolutions technologiques, et ce ne se conçoit pas sans une politique de maîtrise des technologies qui sont essentielles à l'exercice de sa souveraineté et à sa sécurité. Alors la délégation générale pour l'armement que j'ai l'honneur de diriger est, comme on vient de le rappeler, au sein du ministère de la Défense, chargée de préparer ces systèmes de défense futurs, chargés d'en préparer les armements, de les concevoir, d'en acquérir les composants. Et bien sûr, pour cela, elle développe une politique technologique dont je vais vous parler. Mais avant de vous présenter cette politique technologique, je voudrais revenir sur les besoins de défense, parce que cette politique technologique est bien sûr d'abord au service des besoins de défense. Alors, les besoins de défense résultent directement des menaces qui sont liées au contexte géostratégique que nous pouvons rencontrer dans les décennies futures. Et ce contexte géostratégique s'est complètement transformé depuis la fin de la guerre froide. Avant la chute du mur de Berlin, la situation était relativement simple sur le plan stratégique. On avait un monde bipolaire. On avait une menace majeure qui était clairement identifiée. Cette menace, l'armée correspondante, était parfaitement connue. On connaissait son organisation, ses équipements, ses systèmes d'armes, ses doctrines d'emploi. Les scénarios de conflit étaient parfaitement clairs, ils étaient même planifiés dans les moindres détails par chacun des deux blocs protagonistes. C'était un combat aéroterrestre en Centre-Europe. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation beaucoup plus compliquée, puisque à l'échelle des quelques décennies à venir, l'évolution du contexte géostratégique est totalement ouverte et la diversité des situations qu'on va pouvoir rencontrer ou qu'on est susceptible de rencontrer est extrême. Aujourd'hui, le monde, on pourrait le souhaiter, est multipolaire, mais il est aujourd'hui dominé par une hyperpuissance que sont les États-Unis. Et cette domination, on peut estimer qu'elle présente quelques inconvénients, est confortable en termes d'équilibre géostratégique, puisque les États-Unis jouent en quelque sorte le rôle de gendarme du monde. Mais cette situation, est-ce qu'elle est destinée à durer ? Alors si on peut penser que la suprématie militaire des États-Unis est effectivement destinée à durer, en tout cas à vue d'homme, est-ce qu'ils voudront toujours jouer ce rôle de gendarme du monde? Est-ce qu'ils souhaiteront le faire sur la totalité de la planète? Est-ce qu'ils le pourront toujours? Il y a toujours des tendances isolationnistes dans l'opinion publique américaine, et ces tendances peuvent reprendre le dessus. Et bien évidemment, selon les réponses qu'on apporte à ces questions, les besoins de défense sont directement, les besoins de défense français et européens sont directement impactés. Si on prend ce qui s'est passé au Kosovo, il est clair que sans les Américains, nous n'aurions pas pu intervenir de la même façon, puisque les Américains étaient les seuls à maîtriser certaines capacités militaires qui ont été mises en jeu. Autre interrogation, c'est l'Europe. Est-ce qu'on aura une Europe de la défense avec des capacités militaires communes? Bien évident que de cette réponse, la réponse à cette question dépend aussi de ce qu'on doit faire sur le plan national. La Russie, est-ce que la Russie sera sortie de son marasme économique? Est-ce qu'elle aura affirmé une nouvelle identité nationale? Est-ce qu'elle voudra retrouver une position sur l'échiquier diplomatique et militaire? La Chine, la place de la Chine, quelles puissances régionales auront émergé? Donc on voit, sur le plan géostratégique, beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur ce qui peut se passer. Et cette situation découle des menaces diverses et des risques qui apparaissent difficilement maîtrisables. Sur le plan des menaces, continent européen, on a une situation claire en Europe centrale, mais on a une instabilité sur les marches de l'Europe au sud-est et au sud, qui sont illustrées par la situation en ex-Yougoslavie, mais qui peuvent être illustrées par d'autres pays dont la situation reste fragile dans cette zone-là. Au-delà d'Europe, les foyers de tension sont multiples, ils viennent des difficultés entre États ou à l'intérieur des États, que ce soit des problèmes ethniques, que ce soit des problèmes religieux. Et en fait, quand on regarde et qu'on fait le bilan des crises dans la décennie 80 et la décennie 90, on voit, si on regarde le cas de la France, que la France a participé à 16 opérations extérieures dans la décennie 80, et elle a participé à 56 opérations, c'est-à-dire 3 fois et demi de plus, dans la décennie 90. C'est-à-dire qu'on a des crises qui sont de plus en plus nombreuses et fréquentes. En fait, tout se passe comme si la guerre froide avait figé un certain nombre de tensions qui se sont trouvées en quelque sorte libérées depuis la chute du mur de Berlin. À côté de ces foyers de tension, nous avons à faire face à des risques nouveaux. Ces risques nouveaux, c'est la prolifération des armes de destruction massive, nucléaires, biologiques, chimiques, et la prolifération des vecteurs qui sont porteurs de ces armes. Prolifération en matière nucléaire avec l'arrivée de nouveaux États qui disposent de l'arme nucléaire, je pense à l'Inde ou au Pakistan. Risques chimiques et biologiques qui peuvent être, enfin qui d'une part peuvent être employés sur le champ de bataille ou peuvent être employés vis-à-vis de populations civiles avec des effets particulièrement dévastateurs, qui sont accessibles à beaucoup d'États. La découverte a posteriori de l'ampleur du programme chimique offensif irakien en est une démonstration, mais qui sont aussi accessibles à des terroristes, et tout le monde a en tête l'exemple de l'attentat perpétré avec du sarin dans le métro de Tokyo par la secte Aum en 1995. En ce qui concerne les vecteurs, c'est-à-dire les missiles balistiques ou missiles de croisière, on a là aussi une dissémination ou une diffusion des technologies qui permettent de construire ce type de vecteurs. Si on prend un seul exemple, l'exemple du GPS, du positionnement par satellite, l'achat d'un GPS aujourd'hui vaut quelques centaines de francs et permet d'assurer le guidage de précision d'un tel missile. Nous avons aussi à faire face à de nouveaux espaces de vulnérabilité qui n'existaient pas il y a quelques années ou quelques décennies. Le premier, c'est l'espace, avec les satellites qui le peuplent. L'espace est aujourd'hui démilitarisé, mais on peut imaginer qu'il ne soit plus à terme et qu'il devienne un nouveau champ de bataille. Il y a beaucoup d'armes qui peuvent être utilisées contre les satellites. Et on voit l'effet que peut avoir sur une économie la destruction des satellites qui lui permettent de communiquer, par exemple. Autre exemple de vulnérabilité, le cyberespace, qui tisse sa toile jusque dans les foyers de chacun. Et on peut là aussi imaginer des attaques informatiques délibérées sur des systèmes, que ce soit des fins de renseignement, que ce soit des fins de manipulation, que ce soit des fins de paralysie ou de destruction des réseaux, et ceci à la fois sur les systèmes militaires ou civils. Donc, multiplication et surtout diversité des menaces et des risques qui s'accompagnent pour les démocraties occidentales par l'affirmation d'une nouvelle doctrine d'intervention qui, elle aussi, va jouer sur le besoin de défense, sur les technologies qu'il faudra développer. Parmi comme élément de cette doctrine d'intervention des démocraties occidentales, il y a d'abord, bien sûr, la priorité qui est donnée à la recherche de solutions politiques et diplomatiques avant d'utiliser la violence. Il y a la volonté d'agir en respect du droit international. Il y a le choix de modes d'intervention sous la forme de coalitions internationales. Il y a aussi l'exigence d'être à peu près assuré de l'emporter lorsqu'on engage une opération militaire, tout simplement parce que l'opinion publique n'accepterait pas l'enlisement, comme les États-Unis en ont fait l'expérience dans la guerre du Vietnam. La volonté d'économiser les vies humaines, d'abord les vies humaines de ses forces, c'est le concept zéro mort, mais aussi celle de la partie adverse, en essayant de limiter l'usage de la force au strict effet qui est recherché. Donc on veut des armes qui visent uniquement les combattants, qui n'entraînent pas de douleurs et de traumatismes excessifs, qui ont des effets limités sur l'environnement, qui n'ont pas d'effets résiduels, d'effets rémanents au-delà de la phase de combat. Et puis on veut un contrôle politique très étroit sur toutes les phases de l'action. Et ceci, bien sûr, a des conséquences sur les besoins du système de défense. J'en prendrai deux. Le fait d'intervenir en coalition suppose l'interopérabilité des systèmes de défense qui sont mis en œuvre. Il faut que les avions puissent se parler, il faut que les systèmes informatiques puissent communiquer. Le souci de limiter l'effet des armes induit des recherches de précision chirurgicale sur les armes qui sont utilisées, donc, bien sûr, des besoins technologiques dans ce domaine-là. Maintenant, les types de conflits qu'on peut rencontrer, pendant la guerre froide, c'était clair, les deux protagonistes étaient dotés de niveaux technologiques à peu près équivalents, de forces à peu près équivalentes. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus dans des conflits, nous risquons d'être confrontés à des conflits qui sont fortement dissymétriques, avec un adversaire qui a des capacités, des niveaux technologiques très supérieurs à l'autre, voire des conflits qui sont de nature asymétrique, quand l'adversaire que l'on a en face de soi utilise, est prêt à utiliser des moyens que nous réprouvons, je pense à l'emploi de boucliers humains ou l'emploi d'armes chimiques ou biologiques. Et à ce type de conflits répondent aussi des formes de combat qui peuvent être très variées, qui peuvent aller du combat de forte intensité, de haute intensité, jusqu'au maintien de la paix, voire au maintien de l'ordre dans des villes, comme on le voit aujourd'hui en Bosnie ou en Kosovo. Au Kosovo. Et puis on doit aussi considérer dans nos réflexions des environnements géographiques qui sont très divers, puisque ça va du désert au milieu urbain avec des opérations en contact de la population. Alors dans ce nouveau contexte qui cadre en quelque sorte les besoins de défense, la maîtrise technologique ou la recherche de la supériorité technologique répond à deux impératifs. Le premier, c'est comme hier, à prendre l'avantage sur l'adversaire. Alors vous me direz, mais cet adversaire, il n'a pas les mêmes capacités technologiques que ceux d'hier, on est dans des conflits, vous venez de le dire, dissymétriques, on n'est plus dans une logique de course aux armements, mais en fait, il faut qu'on réponde aux conditions dans lesquelles nous voulons engager nos forces, une probabilité de succès très élevée, une volonté de préserver les vies humaines, et bien pour réaliser ces objectifs, pour avoir cette supériorité écrasante, pour avoir cette capacité de préserver les vies humaines, eh bien on a besoin de technologies. On l'a vu au Kosovo, je prendrai l'exemple des missiles de croisière qui sont tirés à distance de sécurité, à 500 000 km, donc dans des conditions de sécurité pour ceux qui les tirent, et qui peuvent avoir une précision métrique qui permet d'éviter des effets collatéraux. Donc on a besoin de cette maîtrise technologique par référence à l'adversaire, mais aujourd'hui, on en a aussi besoin par référence à nos partenaires, ou plutôt aux partenaires dominants dans les coalitions dans lesquelles nous intervenons, parce que si nous voulons être opérables avec ce partenaire, et si nous voulons peser politiquement sur les décisions, si nous voulons être présents dans la coalition, il faut que notre niveau technologique ne nous disqualifie pas dans la conduite des opérations. Je prendrai deux exemples. Il faut bien évidemment que le niveau de sécurité de nos systèmes d'information et de communication permettent d'échanger des informations sensibles avec nos partenaires, si on veut qu'ils nous fassent confiance. Un autre exemple, il faut que nos avions, s'ils veulent pouvoir intervenir avec les avions du partenaire, aient un niveau de furtivité, un niveau de détectabilité par des radars qui soit équivalent. Autrement, bien sûr, le fait que ces avions participent à l'opération aérienne les fera détecter rapidement cette opération aérienne. Donc on voit qu'à la logique de référence à l'adversaire, se superpose aujourd'hui une logique de référence aux partenaires. Nous avons donc aujourd'hui, autant qu'hier, besoin de technologie. Et donc nous avons aussi besoin d'une politique technologique qui soit bien sûr adaptée à ces besoins de défense et qui soit aussi adaptée à nos moyens financiers qui ne sont pas illimités. Alors quels sont ces moyens ? Le ministère de la Défense, en fait, finance la recherche de deux façons. D'abord, il finance directement des organismes de recherche qui effectuent des recherches de base, mais pas exclusivement, mais principalement des recherches de base. Je pense au Commissariat à l'énergie atomique, au CNES, à l'ONERA, à quelques autres organismes. Et il consacre de l'ordre de 4 à 5 milliards de francs par an à ce financement, ces subventions à ces organismes. Et puis, il conduit également des actions de recherche appliquée qui sont financés auprès d'industriels sur des thèmes précis et qui visent à explorer le potentiel militaire d'un certain nombre de nouvelles technologies et à mettre l'industrie de défense en position, par la maîtrise de ces technologies, de pouvoir développer les équipements de défense qui les utiliseront. Et là, les crédits dont nous disposons pour faire ce type d'action est de l'ordre de 3 milliards de francs. Donc on a un effort financier en faveur de la recherche et technologie qui est de l'ordre de 7 à 8 milliards de francs, qui représente déjà 15% des investissements en équipement du ministère de la Défense, mais qui ne représente que le dixième de ce que dépensent les Américains. Si on ajoute à cet effort de recherche technologique les développements, c'est-à-dire ce qui permet de produire les équipements que nous achetons, et donc qui sont financés par les programmes d'armement, il faut rajouter de l'ordre de 14 milliards de francs, ce qui fait un effort en R&D du ministère de la Défense de près de 22 milliards de francs, donc 40% du coût d'acquisition de ces équipements, ce qui est tout à fait considérable. On voit bien qu'il y a des limites au crédit qu'on peut affecter à la recherche et développement. Donc on est dans une situation relativement contrainte, même si ces 40%, ces 22 milliards de francs, représentent 13% de l'effort total de recherche et développement pour l'ensemble du pays. Donc, compte tenu de ces moyens limités, on a deux impératifs. D'une part, de bien cibler les besoins et de faire des choix. On ne peut pas travailler sur toutes les technologies. Il faut faire un certain nombre de paris. Je vais vous expliquer dans un instant comment nous faisons ces choix. Et puis ensuite, il faut être le plus efficace possible dans l'utilisation de ces crédits et notamment dans la mise en œuvre de cette stratégie technologique. Et il faut le faire en essayant d'avoir la meilleure synergie possible avec les industriels de défense, avec le monde scientifique et technique, et puis avec nos partenaires au sein de l'Europe ou nos partenaires au sein de l'OTAN. Alors comment faisons-nous nos choix en matière de technologie? Eh bien en fait, nous essayons de construire une vision prospective à long terme. On a ce qu'on appelle un plan prospectif à 30 ans. Donc notre terme, notre horizon, c'est 30 ans, mais les équipements de défense durent très longtemps et ils sont très longs à développer, donc c'est bien l'horizon dont on a besoin. Et cette vision prospective, elle est en fait le fruit d'analyses qui sont menées de manière interactive entre des simulations sur des évolutions stratégiques, des réflexions sur la forme des conflits de demain, et puis surtout une analyse des évolutions technologiques qui peuvent être rencontrées, qui peuvent survenir dans les 20 à 30 ans qui arrivent, qui sont porteuses d'opportunités nouvelles, qui peuvent nous donner des éléments de supériorité, mais qui sont aussi porteuses de risques de nouvelles menaces, si on les trouve bien sûr chez l'adversaire, ou s'il y a des risques de prolifération à partir de ces ruptures technologiques. Alors ces ruptures technologiques, quelles peuvent-elles être? Il y a d'abord, bien sûr, les véritables avancées scientifiques et techniques. On s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en matière de biotechnologie, en matière de électromécanique, en matière d'armes à énergie dirigée. Elle peut venir aussi de la diffusion très large de technologies nouvelles. Internet, il y a une rupture technologique en domaine de l'utilisation des systèmes d'information et de commandement de défense par le biais d'Internet. C'est une rupture technologique. Un autre type de rupture technologique, c'est le fait d'utiliser des technologies qui existent, mais dans des emplois nouveaux. Et là, je prendrai l'exemple des bombes au graphite qui ont été utilisées par les Américains au Kosovo pour neutraliser la production et la distribution d'électricité sans détruire les instruments de production et distribution d'électricité. Donc, de cette réflexion prospective émergent un certain nombre de besoins prioritaires à satisfaire à moyen et à long terme, et ce sont ces besoins qui guident nos choix technologiques. Et je vais essayer d'illustrer ça par la présentation de quelques besoins prioritaires. Seulement quelques besoins prioritaires. Il y en a d'autres, mais j'ai choisi cela pour illustration. Il y a d'abord l'amélioration de la rapidité d'action et la capacité à conduire des opérations militaires complexes, qui est une des caractéristiques des opérations que nous devons mener aujourd'hui. Car dans une gestion de crise telle qu'elles sont conduites aujourd'hui, et notamment avec toute la phase diplomatique, nous avons besoin de pouvoir réagir très vite car, et de pouvoir intervenir sur un théâtre d'opération avant que la crise ne se développe de manière irréversible. Cette capacité de réaction est tout à fait importante dans la gestion de ces crises-là. Il faut prendre l'adversaire de vitesse dans les prises de décision. Conduit des opérations militaires complexes, on a à gérer aujourd'hui sur un même théâtre une très grande variété de moyens, mais aussi une très grande variété d'objectifs et de menaces, tant aériennes que terrestres, qu'électroniques, qu'informatiques, et on a à le faire entre des forces qui sont réunies pour la circonstance de la coalition, et ceci nécessite des moyens tout à fait importants et une parfaite maîtrise des technologies d'acquisition du renseignement, de télécommunication haut débit, de traitement distribué d'informations. Autre besoin important que j'ai déjà signalé, c'est la nécessité d'avoir une plus grande précision dans les effets d'armement, des armements qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on a besoin d'augmenter très fortement la précision de nos capteurs et la précision de nos systèmes d'armes pour faire effectivement ce qu'on pourrait appeler des frappes chirurgicales, c'est-à-dire d'avoir des précisions qui sont, pour un missile de croisière tiré à 1000 km, inférieures au mètre. Exigence de pouvoir maîtriser la violence liée à l'usage de la force. J'ai dit que c'était une exigence politique. Nous recherchons des formes souples et réversibles de l'action militaire. Nous recherchons la limitation des dommages collatéraux. Nous recherchons aussi la préservation des infrastructures. Comment neutraliser un pays sans détruire ses infrastructures, sachant que cette destruction pose toujours est toujours très pénalisante dans la phase ultérieure de l'intervention. On le voit aujourd'hui avec la destruction qui a été faite des ponts sur le Danube. Je rappelle aussi que la France, par exemple, a refusé de détruire des centrales électriques pendant le conflit pour éviter de se trouver pendant l'hiver qui devait suivre et avoir une catastrophe humanitaire en plein hiver, d'où l'incitation pour les Américains à utiliser les bombographies. Donc toutes ces réflexions-là orientent bien sûr nos recherches. Et tout ceci touche à la guerre électronique, touche à la lutte informatique, aux armes à énergie dirigée et à tous les moyens qui peuvent permettre de mettre des personnels ou des matériels hors service sans le faire de manière irréversible. Et puis le dernier point que je voulais signaler sur les besoins de défense, c'est la priorité accordée à la protection des combattants, mais comme c'est l'exemple que j'ai choisi de vous développer de manière plus fine tout à l'heure, je le garde donc pour la fin de mon exposé. Et puis il faut travailler en synergie pour bien utiliser ces moyens limités dont nous disposons, travailler en synergie bien sûr avec l'industrie de défense, qui va être, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est que ce soit cette industrie de défense qui acquiert la maîtrise des capacités technologiques nécessaires, en synergie avec le monde scientifique et technique, car nous avons besoin, nous ne pouvons pas faire de recherche de base, on ne fait de la recherche de base que sur les applications, les recherches qui n'ont des applications spécifiquement militaires, mais pour le reste, nous avons besoin d'être tout à fait attentifs et à l'émergence de toutes les ruptures technologiques qui peuvent intervenir, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une liaison très étroite, très forte avec le monde scientifique et technique, ce que nous organisons en associant ce monde scientifique et technique à nos travaux de prospective, aux travaux d'expertise, d'évaluation de nos programmes, nos travaux de recherche. Nous mettons des experts externes à la défense dans toutes ces évaluations. Nous finançons près de 300 thèses de doctorat au CNRS et nous demandons à nos industriels de venir se nourrir au socle scientifique et technique en passant des contrats aux laboratoires de recherche qui travaillent sur des sujets qui peuvent avoir des applications de défense. Et puis nous cherchons à travailler bien sûr en synergie avec nos partenaires européens et nos partenaires dans l'OTAN, car je l'ai dit déjà, la France ne peut pas maîtriser la totalité du spectre des sciences et techniques qui sont nécessaires à la défense. Donc on a besoin de développer une coopération d'abord européenne. Aujourd'hui, 20% de nos ressources de recherche et technologie appliquées sont consacrées à des programmes en coopération avec en Europe, et notamment avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et puis on s'appuie également sur l'OTAN, notamment pour tout ce qui touche à l'interopérabilité des matériels et à l'architecture des futurs systèmes de défense collective de l'Alliance qui sont en train d'être imaginés. Alors maintenant, je vais être un peu plus concret, parce que j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de philosophie. Et en fait, je vais vous projeter quelques planches, plus ou moins futuristes, pour illustrer certains travaux que nous menons en matière de préparation de technologies futures. Et j'ai pris l'exemple d'un besoin opérationnel dont j'ai dit qu'il était prioritaire, et qui est la protection du combattant. Donc le premier exemple que je prendrai, c'est nos réflexions sur l'équipement individuel du fantassin. Alors je pense que vous avez projeté donc, cet équipement, c'est un programme qu'on appelle Félin, et nous avons cherché dans ce programme-là à sortir d'une conception qui était d'un certain nombre de composants utilisés par le fantassin, ses vêtements, son casque, sa radio, son arme, qui était conception qui était faite de manière plus ou moins indépendante, à la conception d'un véritable système d'armes intégré avec la volonté d'optimiser la cohérence et l'ergonomie de l'ensemble. Alors d'abord, on peut commencer par le casque. Le casque a plusieurs fonctions. Il a d'abord une fonction de protection balistique et au choc. Donc là-dessus, nous menons des recherches sur les nouveaux matériaux pour améliorer l'ergonomie de ce casque. Mais ce casque nouveau intègre d'autres éléments, notamment tous les moyens de communication, c'est-à-dire qu'on y trouve intégrés les micros et les écouteurs au casque, qu'on a besoin de micro-électronique. Ce casque est équipé également de moyens de vision nocturne. Au lieu d'avoir des jumelles infrarouges, c'est directement du casque qu'il peut avoir cette vision nocturne. On a besoin là donc de technologies d'optronique et d'infrarouge. Dans ce casque, plutôt dans la visière du casque, on peut projeter ce que voit le viseur de son arme, ce qu'on appelle la visée déportée, ce qui permet donc de tirer sortir d'une zone de protection, de manière donc en se protégeant soi-même. Je passe maintenant, donc ça c'est pour le casque, qui intègre de manière très ergonomique toutes ces fonctions-là. L'armement, bien nous voulons des armements qui soient adaptés pour qu'on ait une certaine gradation des effets produits. Visualisation, on équipe ce fantassin d'un bracelet montre qui est en fait un écran sur lequel on peut lui fournir un certain nombre d'informations, des cartes ou des éléments qui vont l'aider à remplir sa mission. Cet équipement dispose aussi d'un certain nombre de microcapteurs physiologiques qui permettent d'avoir une situation d'état physique du fantassin de manière continue. La tenue assure la protection contre les agressions nucléaires, biologiques et chimiques, ce qu'on appelle la protection NBC. Et là, nous sommes en train de développer des nouveaux textiles qui assurent cette protection-là. Et puis, autre élément, l'autonomie énergétique. Il faut bien sûr, tous ces équipements dont on a doté le fantassin consomment de l'électricité. Il faut donc des batteries qui soient légères, mais qui soient à grande capacité. Donc voilà un exemple de travail que nous faisons, et qui est bien sûr, on pense l'intégration globale avec le souci de l'ergonomie, c'est-à-dire du poids et du confort. Je vais prendre un autre exemple qui continue d'illustrer ce souci de la protection du combattant, c'est le contrôle de l'espace urbain, qui est bien sûr d'actualité dans les interventions que nous sommes amenés à faire, notamment aujourd'hui en Bosnie ou au Kosovo. Là, nous avons besoin, dans ce contrôle de l'espace urbain que l'on recherche, de moyens de surveillance. Donc, nous travaillons sur des capteurs miniaturisés intelligents. Ces capteurs sont reliés à un poste de commandement qui fournit une analyse de situation, et qui avec des technologies de fusion de données, puisque nous avons de nombreux capteurs qui permettent d'avoir cette analyse de la situation. Et puis, nous avons mis également des moyens de maîtrise de la violence, c'est-à-dire de moyens de neutralisation et d'incapacitation provisoire. Alors, ce qu'on a représenté ici, c'est le contrôle de l'accès à la ville par un pont qui repose sur une barrière, mais qui est une barrière physique, mais qui dispose aussi, surtout, sur un dispositif rayonnant qui permet d'agir sur le calculateur moteur du véhicule pour arrêter le véhicule qui force le passage. Donc on a besoin, c'est un exemple très simple celui-ci, pour lequel du reste on travaille pour la gendarmerie, mais on a d'autres systèmes beaucoup plus évolués en matière d'armes à énergie dirigée. Je poursuis mes exemples pour passer au combat en zone urbaine, qui est une situation qui est arrivée, on a tous en mémoire ce qui s'est passé en Bosnie. Et là, je voudrais illustrer ce que nous faisons dans le domaine des robots, qu'il s'agisse de robots terrestres ou qu'il s'agisse de robots volants, ce qu'on appelle des drones. Alors, on utilise d'abord des robots, des drones pour le renseignement. Là, vous avez représenté deux types de drones. Un drone qui est un robot terrestre, donc qui peut pénétrer dans les immeubles pour acquérir une information et fournir une vision déportée, on va y revenir. Et puis on a représenté aussi des micro-drones volants qui volent entre les immeubles et qui ont une envergure de l'ordre de 10 à 40 cm et qui permettent aussi d'acquérir de l'information, notamment s'il y a des agressions notamment par des snipers. Donc on a besoin pour mettre en place de tels outils d'un certain nombre de technologies qui sont retracées sur la planche qui vous est présentée. On a besoin ensuite de communiquer, il faut que toutes ces informations soient rassemblées et communiquées. Pour là, on a donc figuré un autre type de drone, qui est un drone qui assure le relais de communication. Et puis enfin, on a la supervision et la synthèse de toutes les informations qui sont acquises, qui sont représentées par les soldats qui disposent sur un écran de la vision exacte qui est acquise par l'intermédiaire de ces robots. Autre exemple que je voudrais donner, toujours sur la protection du combattant, c'est ce qu'on appelle la défense antimissile balistique de théâtre. En fait, il s'agit d'ouvrir pour des forces qui sont déployées sur un théâtre extérieur une sorte de parapluie qui les protège d'une attaque de missile balistique de théâtre, c'est-à-dire un missile qui aurait une portée de 600 à 1000 km maximum. Alors, les dispositifs sur lesquels nous travaillons comportent plusieurs fonctions. Bien sûr, il faut la veille et l'alerte, il faut détecter au plus tôt le départ du missile, son lancement. Donc là, on a des surveillances qui doivent combiner les techniques satellitaires, mais également des technologies radar. Là, il y a un radar aéroporté qui permet d'assurer cette surveillance. On a ensuite à assurer la poursuite et la trajectographie du missile. Il faut déterminer avec précision sa trajectoire pour pouvoir le désigner désigner le missile au système de conduite de tir de l'intercepteur. Donc là aussi, beaucoup de technologies qui doivent être mises au point compte tenu de la difficulté de l'exercice. Puis ensuite, intercepter et neutraliser le missile balistique, ce qui est une tâche très, très difficile. Il faut savoir que les vitesses sont extrêmement élevées et on a besoin quasiment d'une précision centimétrique pour détruire la balle, pour détruire la missile, c'est un peu comme si on voulait frapper une balle avec une balle. Donc on a besoin de missiles d'interception qui est extrêmement véloce, et avec donc des travaux à faire sur les propulsions, sur les technologies radar pour la conduite de tir, des autodirecteurs pour le guidage terminal du missile, des charges militaires qui permettent effectivement de détruire en toute sécurité le missile balistique, et puis aussi, nous explorons ce que peuvent apporter des armes à énergie dirigée. Il faut, pour conduire et piloter tout ce dispositif, de moyens de coordination des opérations. Donc, et comme il s'agit en temps réel et que l'homme restera dans la boucle, il faut une capacité de fusion de données, de communication, de calcul en temps réel qui sont extrêmement, extrêmement sophistiqués. Et puis, il faut bien sûr entraîner, avoir les moyens d'entraîner les opérateurs et je dirais aussi les décideurs, ce qui se fait bien sûr en développant des moyens de simulation, notamment des moyens de simulation hybrides. Je vais prendre encore un autre exemple, toujours dans le domaine de la protection du combattant. C'est la protection contre la menace biologique. Je vous ai dit que c'était une menace nouvelle. Donc, pour assurer cette protection, on a besoin de détecter la menace biologique et notamment d'identifier la menace dont il est question. Donc, de dispositifs d'analyse qui puissent être mis en place sur le terrain. On a besoin de classifier l'agent agresseur, donc de technologies biomédicales pour assurer cette spécification. Et puis on a besoin aussi, bien sûr, de travailler sur la décontamination possible de ce qui aurait été touché par l'agression, et bien sûr, au premier chef, des forces qui ont été engagées dans cette opération. Enfin, et ça sera mon dernier exemple, le réseau santé opérationnel du futur. Donc là, on a représenté un soutien médical qui est assuré au plus près de la zone de combat. Donc c'est ce qu'on appelle la médicalisation de l'avant. J'ai dit tout à l'heure qu'on imaginait que le combattant avait un certain nombre de capteurs de paramètres physiologiques qui vont bien sûr aider à faire le diagnostic. Et puis vous avez une liaison par satellite avec un dispositif de téléassistance médicale qui permet justement d'apporter le soutien à la médicalisation de l'avant pour prendre les bonnes dispositions pour traiter la personne qui doit être soutenue. Et bien sûr, des moyens de continuité de la prise en charge pour ce qui est un transfert, une évacuation des blessés vers l'infrastructure nationale, qu'on ait une continuité dans le suivi médical des blessés. Voilà quelques exemples qui voulaient illustrer ce qu'on pouvait faire comme type de recherche. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais je pensais que c'était une illustration intéressante de ce que nous faisions. Et à la fois aussi de la vision prospective que nous avons et de la diversité des technologies sur lesquelles nous travaillons. Voilà ce que je voulais dire pour introduire la discussion qu'on va avoir maintenant, sur laquelle, bien entendu, je suis prêt à répondre à toutes les questions et à déborder largement de ce que j'ai dit dans cet exposé. Et donc, je me tiens prêt à répondre à vos questions.
Voilà, merci beaucoup.
Merci. Bonsoir, monsieur. Quel est le poids et le prix du nouvel équipement du Fantassin ? Et est-ce que c'est quelque chose qui doit être développé tel quel ? Ou bien est-ce que vous allez prendre un petit élément à droite, un petit élément à gauche ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, c'est en fait un équipement qui est prévu pour 2005. C'est à peu près l'échéance qui est visée. Alors son prix, très honnêtement, je ne peux pas vous le dire, hein. Aujourd'hui, mais enfin, c'est certainement pas donné, mais c'est quand même extrêmement, extrêmement intéressant, à la fois pour l'efficacité du Fantassin et pour sa protection. Donc, ça nous a paru un investissement important. Ce sont des équipements qui sont développés, comme vous avez vu, ils font appel à beaucoup de technologies et bien sûr à beaucoup d'industriels différents. C'est pas bien sûr les mêmes qui travaillent sur les textiles de la tenue que ceux qui travaillent sur le fait d'avoir une vision vision de la cible sur la visière de casque. Donc on fait intervenir beaucoup d'industriels et c'est la DGA qui joue le rôle de maître d'œuvre de l'ensemble du système, comme elle le fait sur tous les systèmes de force, pour que tout ceci soit cohérent et qu'on ait in fine, parce que c'est bien sûr l'enjeu de ce programme, c'est de ne pas avoir à faire porter au Fantassin 45 kilos de matériel sur les épaules. Donc on essaie de rester dans les limites de ce qui est supportable pour le Fantassin.
Oui, monsieur Toulaou.
Enfin, si vous le souhaitez, on peut vous donner des informations plus précises de la part de nos spécialistes. Hein. Vous n'avez qu'à laisser vos coordonnées, on vous rappellera là-dessus, vous en saurez tout sur le prix, le poids. Vous pourrez peut-être même venir essayer la tenue si ça vous intéresse vraiment.
Merci, monsieur.
Mais on vous fait faire un parcours du combattant avec. Si vous êtes prêt à l'exercice physique, ok.
Oui. On peut peut-être prévoir d'ici 30-40 ans que la Chine, l'Inde produiront chaque année quelques 100 fois plus d'ingénieurs que la France. Alors dans cette situation, vous risquez très fort, même bien avant, de vous trouver complètement dépassé dans vos recherches et complètement stoppé même, puisqu'elles seraient complètement inutiles face à des gens qui progresseraient beaucoup plus vite que vous, si bien que vos ingénieurs, vous déserteraient vos centres pour aller vers des cieux plus prometteurs. Alors dans ces conditions, est-ce que tout ce que vous nous racontez, c'est pas un peu du vent ?
Ah non, non, c'est pas un peu du vent, je vous garantis qu'on fait ce type de recherche. Non, en fait, enfin, nous avons des moyens que j'ai détaillés tout à l'heure, qui sont quand même loin d'être négligeables. Il y a plusieurs milliers de personnes qui travaillent sur ces technologies de défense. Je parle en termes de bureaux d'études, il y en a beaucoup plus. L'industrie de défense en France, c'est plus de 200 000 personnes quand même, hein, donc c'est un potentiel tout à fait important. Je vous ai dit tout à l'heure que notre effort représentait à peu près le dixième de celui des États-Unis. Mais si on prend l'effort de l'Europe, c'est-à-dire de l'ensemble des pays de l'Union européenne, on arrive à un effort qui est de l'ordre du tiers de celui des États-Unis. De l'ordre du tiers de celui des États-Unis, c'est beaucoup plus faible, mais je dirais qu'aujourd'hui, les États-Unis jouent un peu pour nous le rôle de défricheur, c'est-à-dire qu'ils explorent un nombre de technologies beaucoup plus important que nous. Bien sûr, un certain nombre de ces technologies ne débouchent pas. Donc on est, en étant... En suivant ce qu'ils font, ça nous permet quand même d'investir sur les technologies qui ont effectivement une chance d'aboutir. Je pense qu'on aura la nécessité d'être beaucoup plus efficace entre pays européens pour faire une bonne utilisation des crédits dont nous disposons, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. C'est-à-dire qu'entre ce que nous faisons en termes de recherche et ce que font nos partenaires, il y a duplication. Et donc l'enjeu avec la relance de l'Europe de la défense qui a été faite, c'est justement de mieux utiliser nos ressources européennes pour mieux les utiliser et mieux préparer le futur.
Monsieur, vous avez beaucoup insisté sur la précision quasi chirurgicale des tirs de missiles. Vous avez même dit atteinte à partir d'un tir fait à plus de 1000 km. Ce qu'on sait aujourd'hui, à la fois sur la guerre du Koweït, sur la guerre du Kosovo et sur les derniers tirs missiles-antimissiles entrepris par les Américains, ben on a l'impression qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Il y avait pratiquement 8 tirs ratés sur 10 et on est revenu très en arrière sur les déclarations tout à fait officielles que le Pentagone avait faites et qui étaient relayées par CNN. Donc je voudrais savoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que vos propos ne sont pas
oui.
un peu optimistes ?
Non, non, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'échecs et de tirs au but qui ne sont pas arrivés au but. Hein, ça, c'est clair. Donc on a bien sûr à fiabiliser les systèmes. Mais aujourd'hui, technologiquement, on sait le faire. Et quand le tir est réussi, il y a effectivement cette précision-là. Bon, alors... Après, il y a un problème de qualité, de maintien en condition opérationnelle des matériels qui fait qu'on n'a pas toujours un résultat important, d'où l'importance de toute la logistique. Mais c'est plus un problème de logistique, de qualité, de fiabilité qu'un problème de ce que permet de faire la technologie.
Oui, Madame Là-Haut.
Monsieur, quel est le rôle joué par les femmes qui font carrière dans l'armée, exactement dans le système que vous avez décrit, s'il vous plaît ? Merci.
Ah bien, nous avons beaucoup de... Enfin, nous recrutons bien sûr beaucoup de femmes, enfin, en tout cas de plus en plus, je ne sais pas si on est encore arrivé à un niveau important, mais notamment dans tous les métiers d'ingénieurs que nous avons à la DGA à peu près 6000 ingénieurs, et là-dedans, il y a une proportion de femmes croissante, et elles ont une place tout à fait normale dans toutes ces recherches.
Oui, madame.
Oui, la France est limitée ici. Je suis là. La France est limitée dans ses capacités de recherche. Vous avez donné un budget. Ça amène la défense à faire des choix et notamment à acquérir certains matériels, principalement aux États-Unis. Bon, je prends comme exemple l'avion le Hawkeye qu'on a acheté là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépendance technologique ? Et quand vous arbitrez dans les choix de développement et de recherche, comment prenez-vous en compte ce risque ?
Oui, tout à fait. Dans les choix, on prend bien sûr en compte les problèmes de souveraineté, c'est-à-dire qu'il est clair que sont menées en priorité toutes les recherches qui conduisent à des technologies qu'on considère de souveraineté parce qu'elles touchent à nos armes de souveraineté. Alors bien sûr, première arme de souveraineté, c'est la dissuasion nucléaire. Et là, bien évidemment, on veut être complètement autonome et ne dépendre de personne. Donc au-delà de ces armes de souveraineté qui couvrent aussi tout ce qui est lié à la sécurité de l'information, nos moyens de télécommunication, à tout ce qui garantit l'intégrité de ces moyens de communication, tout ceci fait partie de ce qu'on considère être comme notre domaine de souveraineté. Ensuite, vous avez d'autres équipements qui sont plutôt des équipements de supériorité, je pense à un avion de combat, à un char, pour lequel on souhaite des développements européens. On considère qu'ils doivent être développés en Europe. Ensuite, il y a des équipements qu'on achètera en quantité très faible, dont le coût de développement est très élevé et dont on ne voit pas d'inconvénient à acquérir ailleurs, et notamment aux États-Unis, même si on sait que les États-Unis, quand ils livrent des matériels, essayent bien sûr de faire pression sur la façon dont on les utilise ou dans la façon dont on conduit ses propres opérations. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a acheté trois avions Hawkeye, qui sont en fait l'avion qui est sur le porte-avions Charles de Gaulle et qui permet de surveiller l'espace aérien autour du porte-avions. Ces avions-là, on en avait besoin de trois, ils coûtent très cher à développer, il n'y a pas d'inconvénient majeur à les acheter aux Américains, et on les a achetés aux Américains. On ne ferait pas la même chose pour d'autres armes qu'on estime devoir développer soit en interne, France, soit en européen. À mesure où en Europe, on est dans un système d'interdépendance entre les différents pays, on n'imagine pas d'avoir des ennuis avec les Allemands ou avec les Britanniques sur un équipement qui a été développé en commun comme ça se fait aujourd'hui.
Oui, monsieur, tout à gauche.
Je voulais dire, d'abord, ce complexe d'infériorité. Nous avons quand même 8 prix Nobel de sciences. Nous avons 5 à Genève. Hein, il y en a évidemment, il y en a 40 à Boston et il y en a 40 à Göttingen. Et dans le passé, enfin jusqu'à présent, ça continue en Amérique. Mais alors, nous avons des chercheurs extraordinaires en médecine aussi. Ce sont les Américains qui disent que nous sommes les premiers en médecine. Ce qui ne veut pas dire le système médical, ni le système de sécurité sociale, etc. Bon, alors je veux poser une question brûlante. Les armes... Il faut 30 ans, ça doit durer 30 ans, en principe des armes assez très développées. C'est la même chose pour des nouveautés médicales ou scientifiques, techniques particulières. Alors, moi j'ai l'impression tout de même qu'ici, nous sommes dans un guépier politique et médiatique. N'est-ce pas ? J'ai été en stage un an aux États-Unis dans les laboratoires pour le CEA. Eh bien, tous les professeurs de droit constitutionnel nous disaient « La seule défaut de la Constitution américaine, c'est qu'on réélit le président tous les 4 ans. » Ce qui nous met toujours en élection et nous rend de grandes difficultés pour faire nos programmes d'armement.
Évidemment, vous appelez pour le voter pour le quinquennat, là.
Ben justement, alors voilà un piège. Alors j'ai entendu discuter de cela après la guerre d'Algérie, entre M. Mesmer, M. Malraux et le général de Gaulle. Eh bien... Pour eux, c'était évident. On ne peut rien faire en 5 ans. Alors, voilà. Mais je ne fais pas. Moi, je ne fais pas. Je vous rapporte des faits.
Voilà une question.
Je rapporte des faits. Je ne fais pas de politique. Hein.
Voilà une question d'actualité.
Ça m'est égal d'être pour 5 ans. Je trouverai toujours le moyen de faire de la recherche et de trouver, de prendre des équipes, etc. Comme a fait Montagnier, il a lancé 60 équipes aux États-Unis. Il n'empêche qu'il est revenu ici et il travaille à Pasteur.
Voilà. Merci, monsieur. D'ailleurs. Merci beaucoup.
Très bien, merci.
Oui, il y a un monsieur qui a un micro là, oui, au là-haut. Oui.
Bonsoir. Vas-y. Monsieur. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on a entendu, enfin on a entendu parler de ce qu'on a appelé le syndrome de la guerre du Golfe. De quoi s'agit-il ?
Oui, écoutez, moi je ne suis pas très compétent sur les syndromes de la guerre du Golfe. Non, je crois qu'il y a effectivement un certain nombre d'interrogations qui sont nées d'abord aux États-Unis sur les effets de... On ne sait pas quoi du reste. Il y a plusieurs hypothèses qui sont émises sur la santé de certains soldats qui ont été engagés. Je crois qu'on est il y a beaucoup d'études qui sont faites. En France, le sujet a été soulevé ces derniers mois. Le ministre de la Défense a décidé de lancer un certain nombre, de renforcer les investigations qui avaient cours pour déterminer si effectivement il y avait ce type de problème et s'il y avait effectivement un syndrome de la guerre du Golfe aussi pour les soldats français. Donc je crois qu'il faut attendre. Je crois que les Américains ne sont pas beaucoup plus avancés que nous. Et donc, les études continuent sur ce thème-là.
Est-ce que vous pensez que ce sont des armes ennemies ou ce sont des médicaments préventifs?
Je crois qu'il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. Des armes chimiques utilisées par l'Irak, dont on sait qu'il avait des armes chimiques. Les vaccins qu'auraient administrés les Américains. Ou alors les munitions à uranium appauvries ou d'autres facteurs. Donc ce qu'il faut, c'est poursuivre, essayer de comprendre si effectivement il y a syndrome et de quelle nature il est.
Oui, monsieur. Là.
Oui, vous avez très peu parlé du budget en matière d'information et plus généralement de renseignement, tant sur le plan du théâtre d'opération que plus largement. Et je suis surpris parce que c'est quand même un choix primordial, me semble-t-il, du moins.
Oui, enfin, il est vrai que
sur le plan satellitaire, par exemple.
Oui, mais quand je vous ai montré les différentes planches que je vous ai montrées, vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de satellites en l'air. Je ne les ai pas signalés à chaque fois, mais c'est effectivement sur le domaine, pas seulement du satellite. Pour nous, le satellite est un moyen, mais surtout ce qui concerne l'information, le recueil du renseignement, le traitement de l'information, ce qu'on appelle les systèmes d'information et de commandement, qui constitue l'intelligence des systèmes et qui multiplie l'efficacité de nos armes. Et c'est un investissement tout à fait important que nous faisons. Quand vous avez vu tous les systèmes qu'on présente, ce sont des systèmes dans lesquels il y a des capteurs, il y a un traitement de l'information, il y a des interfaces homme-machine pour restituer l'information et pour aider aux prises de décision rapides. Et c'est un facteur tout à fait important que ces capteurs, ces moyens de télécommunication, de transmission, et puis ces systèmes de traitement de l'information qui représentent un investissement très important de nos travaux de recherche et de développement.
Oui, monsieur, au milieu.
Oui, avez-vous quelques informations, même anecdotiques, sur les avions furtifs qu'on ne devait pas détecter et en réalité qui était tout à fait détectable.
Parler d'avion américain qui, au Kosovo, a été...
Ça fait pas mal de bruit, mais aujourd'hui, le bruit, on ne l'entend plus.
Pour un avion furtif, oui, c'était...
Non, c'est un avion qui devait voler, je crois, à 50 000 km, 50 000 mètres, ou non, je ne sais pas, moi, bien,
non,
à des altitudes tout à fait...
Ouais.
Non,
je n'ai pas d'informations, je demande à...
Monsieur, s'il vous plaît, oui. Monsieur à droite.
C'est la carapace qui a absorbé les rayons radars et qui les renvoyait comme des gars.
Ouais.
Oui, monsieur.
Vous avez parlé de l'interface homme-machine. Est-ce que des études sont poursuivies pour voir dans quelle mesure tel ou tel type de combattant est adapté à son arme? Ou est-ce qu'on prend le tout venant des militaires pour utiliser n'importe quelle arme?
Non, d'abord, vous savez qu'on passe à une armée professionnelle. Et c'est du reste une considération qui est bien sûr prise en compte, qui a été prise en compte dans la décision de passer à l'armée professionnelle. C'est la sophistication croissante des systèmes qu'on utilise et qui demande un entraînement tout à fait sérieux pour pouvoir utiliser de tels systèmes. Donc, non, il y a dans les... Aujourd'hui, quasiment pour tous ceux qu'on envoie en opération, on partage leur temps, si vous voulez, en trois tiers. Il faut un tiers en opération, un tiers en formation et un tiers, bien sûr, pour les permissions. Donc ça montre bien l'importance de la formation et l'importance de l'adaptation du fait qu'on confie des armes ou des systèmes qu'à des qu'à des hommes ou des femmes hyper formés. La psychologie n'est pas... La psychologie ? Si, bien sûr, la psychologie est prise en compte. Ça se voit à l'entraînement, l'aspect psychologique.
Madame.
Oui, j'aurais voulu, si c'était possible, que vous puissiez répondre à l'accident suite à l'accident du Kursk, à savoir que, en fait, cet accident a été provoqué lors d'un entraînement d'un sous-marin nucléaire russe. Enfin, c'est tout au moins ce que j'ai pu lire le plus souvent. À savoir, alors donc, est-ce que cet accident est lié à une défaillance technologique ou une défaillance humaine, selon vous ?
Vous parlez de l'accident
du Kursk, du sous-marin nucléaire.
Écoutez, pour le moment, je crois qu'on a des informations très, très, très diverses sur ce... Pardon ?
Contradictoire ? C'est pas clair ?
Oui, je crois qu'on a des informations contradictoires. Non, on a plutôt tendance à considérer que c'est un accident. Ce n'est pas une défaillance technologique.
Pas une défaillance.
Alors, ça peut être un accident qui est lié à des produits... Normalement, si l'accident vient d'une torpille... qui était propulsé par un missile à changement de milieu qui est propulsé par du propergol qui est un produit très dangereux. Ça peut être il y avait des risques élevés à utiliser cet équipement, mais je crois qu'à l'origine c'est quand même plus ou moins une fortune de mer qui est à l'origine de la catastrophe, aggravée peut-être par des choix technologiques, mais au départ c'est plutôt ça. J'espère qu'on saura un jour ce qui s'est passé.
Oui, monsieur.
Oui, rebonsoir, monsieur. Moi, je vais vous poser une question très simple. Je voudrais bien savoir depuis quand l'espace, démilitarisé. Parce que, depuis quand ? Parce que moi, je vous dis, à une certaine époque, il y a eu un grand projet de guerre des étoiles. Je voulais savoir si ce que voulait faire monsieur le cow-boy, quoi. C'était un truc qui était internationalement faisable. Merci.
Non, je crois qu'il y a aujourd'hui un accord sur la démilitarisation de l'espace.
Bon. S'il vous plaît.
Comment ? Fin des années 60.
Et la dernière chose que je voulais dire...
Les collaborateurs en connaissent beaucoup plus que moi.
D'accord. La dernière chose que je voulais dire, c'est
donc,
que...
Donc il y a un accord international pour ça.
76.
Fin des années 60, oui.
D'accord, fin des années 60. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était par rapport aux avions furtifs. les rayons radars envoyés par les ennemis étaient absorbés par la carapace de l'avion. Donc on croyait... ça faisait comme s'il n'y avait pas d'avion. Merci.
Oui, ça, c'est une façon de faire de la furtivité, oui.
Oui,
une peinture absorbante.
Une dernière question, là, merci.
Oui, bonjour. Je vais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a une révolution au niveau des conflits armés, par exemple là, ce siècle a été marqué justement par des conflits armés massifs, style Première, Deuxième Guerre mondiale, avec des engagements très importants des populations. Et là, justement, avec la professionnalisation de l'armée, est-ce que vous pensez qu'on n'aurait pas quelque chose de type renaissance avec des combattants très spécialisés dans leur domaine et justement un peu aussi décalé par rapport à la société civile ? Merci.
J'ai pas très bien compris votre question. Vous dites on a une armée professionnelle aujourd'hui, est-ce qu'elle ne va pas être décalée de la société civile alors que...
En fait, comment dire ? Je pensais à des conflits, par exemple, durant la fin du Moyen-Âge, Renaissance, ou justement même où la guerre était réservée à des professionnels et qui maîtrisaient très bien leur technique, leur armement, etc. Puis après, justement, avec la révolution industrielle, il y a eu justement un côté massif où justement c'était une grande partie de la population qui était impliquée dans les conflits. Là, est-ce que justement, il n'y a pas un retour du balancier avec un...
Écoutez, je ne sais pas. Tout dépend du type de conflit qu'on retrouvera. On n'a pas. Je crois qu'on a une armée professionnelle. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où notre territoire national est menacé. C'est la raison pour laquelle on a aussi, c'est une des raisons qui ont fait qu'on est passé à la professionnalisation. Il est clair que si on avait une menace sur le territoire national qui se précisait, il y aurait d'autres moyens de... On réagirait d'une façon différente. Je pense que c'est très lié quand même aux menaces. Vous avez vu que dans la plupart des pays, ils se sont professionnalisés, ont professionnalisé leur armée, dès lors qu'ils n'ont plus considéré que l'invasion du territoire national était une menace très pesante. Donc je crois qu'il y a à chaque fois une réponse qui est adaptée au contexte géostratégique. Peut-être qu'on reviendra à autre chose dans d'autres contextes.
Optimiste, justement, pour le siècle qui vient?
Je crois qu'il faut être optimiste. Je crois qu'il faut être optimiste. Enfin, toute la politique que l'on mène, c'est justement pour essayer d'assurer la sécurité.
Voilà, merci. Bonne conclusion.
Merci
beaucoup, M. Jean-Yves Elmer.